Place Info.
Le bras de fer se poursuit autour de Noël. Tout se passera bien, assure le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Il y a ainsi, tout se passera bien si le gouvernement retire son projet. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, lui répond que la République ne peut pas subir de chantage. Est-on tous bloqués? Va-t-on passer Noël dans les gares? Ou est-il encore possible de sauver les fêtes de fin d'année? On en débat avec Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine. Bonsoir Judith.
Bonsoir Maïla.
François Baudonnet, journaliste à France Télévisions et chroniqueur dans l'émission Nous les Européens.
Bonsoir.
À vos côtés, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com qui décrypte la communication notamment de nos politiques. Ça va nous être précieux ce soir. Et Yasmina et François Ehrenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir
à toutes et à tous, les informés jusqu'à 21h, à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Avant cela, le cas Jean-Paul Delevoye qui déclare finalement 13 mandats dans sa déclaration d'intérêt contre 3 dans la version initiale. Alors, un oubli, ça va, 10, bonjour, les dégâts. Concert de condamnation dans l'opposition qui juge le monsieur retraite du gouvernement disqualifié pour porter la réforme. Exemple avec Marine Le Pen sur CNews.
Je pense que la suspicion de conflit d'intérêts à l'égard de monsieur Delevoye le disqualifie totalement pour continuer à incarner cette discussion sur l'avenir des Français et évidemment l'avenir de leur retraite.
François Baudonnet, un oubli, bon, ça peut être de la bonne foi. 13, ça fragilise quand même cette ligne de défense.
Oui, le risque, effectivement, c'est que Jean-Paul Delevoye soit un peu le maillon faible, maintenant, de cette réforme. Et moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que je crois que la France serait quand même globalement bien inspirée de s'inspirer, justement, de ce qui se passe ailleurs en Europe, et en particulier dans les pays nordiques, en ce qui concerne la transparence. Vous savez, il y a quelques années, en Suède, il y avait une ministre qui avait été obligée de démissionner parce qu'elle avait utilisé la carte officielle, la carte bancaire officielle pour faire quelques courses. Il y en avait pour, je crois, 2000 euros. Et ça s'était appelé à l'époque le scandale Toblerone parce qu'elle avait acheté des barres chocolatées de cette marque. Et elle avait démissionné à cause de ça. Là, on est dans un autre domaine. Et on voit bien la gêne qu'il y a des membres du gouvernement qui ont été interrogés ce week-end et qui continuent à soutenir Jean-Paul Delevoye. Et encore une fois, vraiment, je pense que ça prouve un problème de fonctionnement qu'on a dans notre pays par rapport à ça.
Quand François Baudonnet dit qu'on doit s'inspirer de ce qui se passe, oui, notamment dans les pays nordiques, c'est-à-dire que Jean-Paul Delevoye doit comprendre et se retirer, Yasmina Jaffar.
Oui, c'est vrai que l'expérience de M. Delevoye n'est plus à prouver. Donc il connaît les institutions, il sait ce qui est faisable et pas faisable. Donc la ligne de défense qui est de dire j'ai oublié un mandat ne tient plus. Déjà, un, ça tient pas. Mais alors 13, encore moins, quand on sait qu'il y en a 2 qui sont rémunérés. Donc on est dans une infraction constitutionnelle. Après, il y a aussi cette idée aujourd'hui, et puis hier, de différents membres de l'exécutif qui indiquent que c'est un homme de bonne foi. Ce midi, M. Blanquer a aussi dit que c'était un homme honnête. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Très bien. On connaît M. Delevoye, on connaît sa carrière, et je trouve même dommageable qu'il
Qu'est-ce
y ait
qui est
ce
mis en cause? Pourquoi vous dites que c'est pas ça qui est mis en cause?
Parce que ce n'est pas sa bonne foi ou sa carrière ou son humanisme qui est mis en cause aujourd'hui. C'est une habitude qui est mise en cause. Voilà, vous avez raison. C'est une habitude qui est mise en cause dans ce pays, qui est d'une facilité à... alors, il faut le rappeler peut-être, Bayrou dans une autre affaire, Sylvie Goulard dans une autre affaire. Enfin, il y a une facilité aujourd'hui à faire de la transparence ce qu'on a envie d'en faire.
Ça veut dire, Judith Weintraub, que la majorité a tort de faire bloc derrière Jean-Paul Delevoye.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Yasmina pour dire que la bonne foi n'est pas du tout la question. D'abord, on n'en sait rien. Ensuite, quand bien même, il a commis des infractions qui sont constituées. C'est un gouvernement qui, je le rappelle, se voulait tellement exemplaire, un pouvoir qui se voulait tellement exemplaire que le premier acte législatif de la majorité a été de voter une loi pour la transparence, faite par François Bayrou, qui a dû quitter le gouvernement à cause de ses démêlés judiciaires. Jean-Paul Delevoye lui-même se voulait exemplaire, et y a un tweet qu'il a fait sur le sujet,
il y a des déclarations
tout dirigeant doit être absolument exemplaire et nul n'est au-dessus de la loi. C'est un tweet de 2018 qui, évidemment, on a retrouvé des tweetos sont exhumés, se sont empressés de poster, mais quand on donne des leçons, il faut être absolument proche. Je comprends même pas qu'on se pose la question de son maintien.
François Ehrenwein, pourquoi la majorité fait bloc du coup, si l'affaire est si embarrassante?
Il y a des circonstances, la réforme n'est pas en grande forme actuellement, donc affaiblir encore un peu plus le dispositif serait compliqué, mais le maintien, c'est pas la garantie de sa solidification. Donc il y a un certain nombre de questions. Mais moi je voudrais avouer au fond ma perplexité. Pourquoi est-ce que pour des ce qui pourrait être qualifié de jetons de présence, pourquoi un homme se met dans une situation aussi paradoxale?
Enfin, des habitudes.
Oui, mais ce sont de très mauvaises habitudes, mais voilà. je sais pas.
Des jetons de présence à plus de 5000 euros, c'est plus des.
C'est sacré jetons de présence. Il y a deux mandats rémunérés sur les 13 qui sont déclarés.
Oui, bon, ça représente de l'argent, on est bien d'accord. Mais
il faut garder le sens des proportions, quand même.
Le paradoxe pour moi, c'est pourquoi, quand on a les carrières de Jean-Paul Delevoye, pourquoi est-ce que, avec les positions qui sont les siennes, on accepte de s'enfermer, de se cornériser dans des pratiques, évidemment, qui provoquent l'indignation légitime des gens qui les constatent. Et moi, pour moi, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que, à ce niveau de rémunération, parce qu'il gagnait correctement sa vie, pourquoi à ce niveau de rémunération, on éprouve le besoin de dissimuler des choses qui ne sont pas essentielles?
Avec l'expérience qu'il a, on peut difficilement croire qu'il ne savait pas et que c'est juste un oubli.
C'est un vieux briscard de la politique.
C'est un vieux briscard de la politique. Oui, c'est vrai que les règles ont un peu changé.
Pourquoi est-ce qu'il prend de tels risques? C'est moi.
Apparemment, il les aurait dissimulés dans sa déclaration de patrimoine, puisque sa défense, c'est de dire j'étais tellement obnubilé par l'exactitude de ma déclaration sur le patrimoine que c'est vrai que j'ai rempli un peu vite l'autre déclaration, qui est la déclaration d'intérêt, qui est aujourd'hui en cause.
Et au-delà de la politique, l'affaire pourrait prendre un tour judiciaire, puisque Anticor, l'association, menace de saisir le parquet si la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique ne le fait pas. On les entendra dans quelques instants, 20h10 sur France Info. D'abord, le rappel de l'information, Guillaume Fariol.
Les intempéries dans le sud-ouest ont fait 3 morts. Le corps de l'homme disparu dans les Landes avant-hier retrouvé aujourd'hui. Il s'ajoute aux 2 autres victimes dans le Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Autre conséquence de ces intempéries, les coupures de courant. Toujours 7000 foyers sans électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 4 fédérations de la CGT, dont celle des cheminots, lancent un ultimatum au gouvernement. Elles demandent le retrait du projet de réforme des retraites d'ici une semaine, sans quoi la grève se durcira. Demain, dans les transports, trafic encore très perturbé. 1/3 des TGV en circulation, 4 liaisons TER sur 10, 1/4 des Transiliens, 8 lignes de métro sur 16 fermées à Paris. Le maire du Mans condamne sur Twitter des comportements inacceptables. 5 militants d'extrême droite en garde à vue après des violences dans le centre-ville hier soir. Des terrasses de café saccagées en marge d'un rassemblement royaliste. Une COP25 pour rien, regrette Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste très déçu par l'accord trouvé à l'issue du sommet pour le climat à Madrid. Un texte à minima sans avancée majeure contre le réchauffement climatique. Et puis la 18e journée de Ligue 1 de football, défaite à domicile 1-0 de Lyon face à Rennes. Strasbourg s'impose sur le même score contre Bordeaux. Saint-Etienne reçoit le PSG à 21h.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique se prononce mercredi sur le cas Jean-Paul Delevoye. Elle a été saisie par le parquet de Paris, mais voilà que l'association Anticor menace, elle, de saisir le parquet, c'est-à-dire en fait de prolonger le supplice potentiellement judiciaire, politique en tout cas, de Jean-Paul Delevoye. On écoute son président, suivi de l'ancien député René Dosière, grand spécialiste de la gestion des finances publiques.
Il va très certainement être poursuivi pour manquement à ses obligations de déclaration. C'est quand même un délit passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans de prison.
La Constitution interdit tout cumul de rémunération pour un ministre. Bon, l'intéressé l'ignorait, ce qui est pour le moins fâcheux, mais les services du Premier ministre ont également couvert cette erreur, ce qui est invraisemblable.
Si on en croit René Dosière, Judith Weintraub, ça peut rejaillir sur toute la majorité, ou en tout cas sur tout l'exécutif.
Oui, parce que la loi oblige à ne pas couvrir ce genre de délit. Hein. On est dans du délictuel.
Et pourtant, on ne découvre pas Truand à 72 ans, hein, Jean-Paul Delevoye.
Non, attends, avant de le...
Présomption.
Le traité de Truand, c'est peut-être un peu rapide. Apparemment, le délit est constitué. En tout cas, il ne le conteste pas, d'ailleurs. Il reconnaît qu'il a commis une infraction délictuelle. Maintenant, c'est au juge de dire ce que ça mérite.
Il y a une phrase dans le journal de dimanche aujourd'hui d'un habitué de l'Élysée qui dit ceci: « On ne peut pas se permettre d'avoir un ministre mis en cause » au moment du débat parlementaire. Je ferme les guillemets. Yasmina Jaffar, ça veut dire que quoi qu'il arrive, ces jours sont comptés, Jean-Paul Delevoye.
Mais c'est vrai que ça tombe très très mal. On est à 48 heures d'une manifestation d'ampleur où peut-être Monsieur Berger va rejoindre les rangs de Monsieur Martinez. Donc oui, la réforme va pas très très bien. Et si jamais on avait dans l'exécutif une envie, je le dis comme ça un peu vulgairement, mais de se débarrasser de Monsieur Delevoye, ça serait peut-être l'occasion. Mais c'est dommage que ça se passe comme ça, parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui connaît absolument ce que c'est que cette réforme. Il l'a constituée, il l'a pensée, il l'a amenée jusqu'aujourd'hui, jusqu'à son fait. Mais il avait donné une interview au Parisien il y a quelques mois où il montrait déjà des désaccords très clairs avec l'exécutif, en tout cas avec Édouard Philippe. Donc tout peut se mélanger. Il y a là une affaire politique, une affaire juridique aussi bientôt. Et je trouve ça vraiment dommage vu le moment que nous vivons.
François Baudonnet.
Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est le mode de fonctionnement de la haute autorité. Parce que les mandats qu'il n'a pas déclarés n'étaient pas des mandats cachés. Je veux dire, par exemple, à la fondation SNCF, si la haute autorité avait ne serait-ce que vérifié, encore une fois, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça se trouvait assez facilement, et c'était pas des mandats cachés. Donc, très étonnant ce fonctionnement, c'est du déclaratif, c'est évidemment, ça c'est normal, c'est la personne qui doit dire quels sont ses mandats par ailleurs, mais qui est comme ça, absolument aucune vérification, avec un nombre de mandats qu'il n'a pas déclaré, qui est très important, ça m'étonne beaucoup.
François Hannenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, est-ce que Jean-Paul Delevoye, aujourd'hui, peut continuer à mener des discussions avec les syndicats?
Vous distinguez les niveaux sur le plan technique, ça a été dit à l'instant, il est compétent sur ce dossier, il a beaucoup travaillé, il en connaît le texte et le sous-texte. Donc, la question posée aujourd'hui est politique. C'est-à-dire, est-ce que, fragilisé comme il l'est, il a encore l'autorité pour conduire des discussions avec des partenaires sociaux qui n'ont pas l'intention, en tous les cas, si j'en juge à leur déclaration, de faire montre d'une particulière bienveillance. Quand on est dans l'épreuve de force, il faut être droit dans ses bottes et solide. Or là, incontestablement, on l'a tous dit, il est affaibli. Donc après, c'est au gouvernement d'apprécier comment il gère tout ça.
Mais sachant que dans ce genre d'histoire, dans ce genre d'affaire, puisque c'est pas la première, le meilleur moment pour trancher dans le vif, c'est le premier. Or, c'est pas la pratique du gouvernement, hein, qui a tendance à laisser traîner. On n'a pas l'impression que Emmanuel Macron lui-même soit particulièrement amateur de rapidité et d'exécution dans ce domaine, et c'est dommageable à chaque fois.
Alors même que la composition du gouvernement avait pris du retard, nous avait répondu à l'époque pour vérifier notamment ces vérifications. François Hannenwein évoquait les syndicats qui ne sont pas décidés à faire preuve de mansuétude, ni à l'égard de Jean-Paul Delevoye en l'occurrence, ni à l'égard de la période de Noël. Hein. La CGT, ce soir, par communiqué, jure que ce n'est pas un ultimatum, mais tout de même donne une semaine au gouvernement pour retirer son projet de réforme, 4 de ses fédérations tout le moins, sinon le mouvement se poursuivra pendant les fêtes. Pour Sudrail, le gouvernement est seul maître du calendrier. Son secrétaire fédéral Éric Meyer était sur France Info.
C'est pas nous qui sommes maîtres du calendrier. C'est pas nous qui avons décidé de présenter le projet de réforme à 10 jours des fêtes de Noël. Nous, on entend le chantage du Premier ministre qui joue sur les périodes de Noël pour exiger, en tout cas demander aux grévistes de faire une pause. Nous, on n'a pas entendu de la part du Premier ministre la volonté de faire une pause dans la réforme. C'est quand même du coup fort de café aujourd'hui de faire porter la responsabilité aux grévistes d'un éventuel blocage pendant les périodes de fête. On ne donne pas de consignes. La question sera posée cette semaine dans les assemblées générales et c'est les cheminots grévistes qui décideront en leur âme et conscience à faire une pause ou pas période de Noël.
Éric Meyer, secrétaire fédéral de Sudrail, qui évoque le chantage en quelque sorte du gouvernement, c'est exactement le même terme, chantage, qui est utilisé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Yasmina Jaffar, pendant ce temps-là, les Français regardent passer les balles.
Oui, ce qui souligne L'élément de langage commun.
Tu
vas
dire regarde passer les trains, mais oui. Ce serait
un mauvais jeu de mots. Même pas. Les vaches, ça doit leur manquer aussi. Non, mais le langage commun, l'élément de langage commun prouve que c'est un rapport de force. Et nous sommes là, en effet, au milieu de ce rapport de force. Et ce midi, encore une fois, Jean-Michel Blanquer disait, ce qui caractérise ce gouvernement, c'est que justement, nous prenons les choses à bras le corps. Il aurait fallu les prendre à bras le corps dès l'affaire du pivot au mois de juillet, quand ça a été un petit peu retoqué par le président de la République, pour en fait revenir il y a quelques semaines dans les débats. Ça abîme un petit peu toute la conversation et la négociation sociale qui a du mal à se faire dans ce pays. Donc il y a un problème avec la CFDT qui est cet âge pivot. Donc si jamais mercredi, parce qu'avant mercredi, il ne se passera rien, il y a un recul.
C'est mardi la journée charnière ?
Je pense que si mardi, il y a un afflux et que cette manifestation est plus importante que la première, parce qu'on se rappelle que la deuxième n'était pas si importante que ça, il va falloir peut-être réagir. Et la tension chez les Français monte, parce que Noël, c'est maintenant un compte à rebours, on peut le dire, c'est dans une semaine. Donc il va falloir peut-être réagir. Alors est-ce que Édouard Philippe va vouloir lâcher sur le côté économique de la situation ? Je ne pense pas. Est-ce que M. Martinez va vouloir lâcher sur cette idée aussi d'aller jusqu'au bout et de retirer le projet ? Ils ne sont même pas dans la discussion, ils sont dans le retirer le projet. Je ne pense pas. Donc au milieu, voilà, nous sommes en effet au milieu. Qui va céder à ce rapport de force ? On ne sait pas.
François Baudonnet.
Vous disiez que le mot chantage a été utilisé des deux côtés. Et je crois que c'est très symptomatique du fonctionnement des discussions en France. Et encore une fois, si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs en Europe, au cours des deux dernières années, il y a 14 pays d'Europe qui ont réformé leur système de retraite, puisqu'on est tous confrontés au même problème, le vieillissement de la population. Mais dans la plupart des cas, ça s'est beaucoup mieux passé qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en général, il y a des discussions qui sont débutées beaucoup plus tôt. Souvent, ça prend plusieurs années.
Plus de 18 mois, comme c'était le cas sur cette réforme-là ?
Beaucoup plus. Parfois, ça prend 2, 3, 4 ans.
10 ans.
Dans certains cas, ça peut aller effectivement jusqu'à 10 ans. Et donc après, une fois que la réforme est adoptée, les choses se passent beaucoup mieux. On n'est pas dans cette confrontation permanente. On a des syndicats, évidemment la CGT en tête, qui est dans la confrontation, mais le gouvernement là finalement a fait exactement la même chose, puisque par exemple il a annoncé la réforme des retraites, et ensuite depuis Bruxelles Emmanuel Macron, le président de la République, a dit maintenant on peut commencer à entrer dans la négociation, alors que la réforme venait d'être annoncée. C'est donc bien la preuve qu'en fait c'est vraiment la confrontation qui l'emporte.
On regardera dans quelques instants d'ailleurs les chiffres des sondages, parce qu'étonnamment en dépit des blocages, en dépit eh bien, des craintes pour Noël, l'opinion reste pour l'instant favorable au mouvement. Avant cela, 20h20, France Info, le rappel de l'information, Guillaume Fariol.
Comme depuis plus de 10 jours, trafic très perturbé demain dans les transports. La grève contre la réforme des retraites se poursuit. Un tiers des TGV en circulation, 4 liaisons TER sur 10, un quart des Transiliens. 8 lignes de métro sur 16 fermées à Paris. Jean-Paul Delevoye est totalement discrédité. C'est ce que dit sur France Info le secrétaire fédéral de Sudrail après les nombreuses omissions du haut commissaire aux retraites dans sa déclaration d'intérêt. 10 postes ou fonctions au total qu'il n'a pas signalé. L'homme de 40 ans disparu depuis avant-hier dans les Landes, retrouvé mort entre Dax et Mont-de-Marsan. Sa voiture est tombée dans un cours d'eau en crue. Le bilan des intempéries dans le sud-ouest passe à 3 morts. La France accusée de ne pas avoir assez pesé dans les négociations à la COP25 de Madrid. Un accord à minima décevant trouvé à l'issue du sommet pour le climat. Où était Emmanuel Macron, critique Greenpeace ? La France n'a pas joué le rôle de gardien de l'accord de Paris, dénonce Oxfam. Des milliers de Libanais de nouveau dans les rues de Beyrouth cet après-midi. Nouvelle manifestation contre le pouvoir malgré les heurts hier avec la police. Le pays secoué depuis maintenant presque 2 mois par ce mouvement de contestation. Et puis la Coupe d'Europe de rugby, suite des phases de poule. Et la victoire de Clermont, 52-26 face aux Anglais de Basse.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Avec toujours ces 4 fédérations CGT qui donnent une semaine au gouvernement pour retirer son projet de réforme, seule condition pour sauver les fêtes de Noël. Étonnamment, l'opinion publique semble rester favorable au mouvement. Sondage IFOP pour le JDD, 54% des sondés soutiennent la grève. Judith Weintraub, pour l'instant, le gouvernement perd la bataille de l'opinion.
Absolument, et c'est tout l'enjeu de ce renvoi de balles entre le gouvernement et les syndicats qui mènent la grève. Il faut que les Français, au bout du compte, désignent des responsables, des coupables, des blocages dont ils sont les victimes. Mais pour le moment, le gouvernement n'arrive pas du tout à imposer l'idée que ce sont les syndicats qui en sont responsables. L'argumentaire, on le connaît, c'est les ministres disent c'est pas nous qui avons décidé de cette grande grève ou de lancer le mouvement le 5 décembre, date anniversaire du lancement du mouvement de 1995 qui avait abouti au retrait de la réforme des régimes spéciaux. Ce à quoi le gouvernement répond, mais nous on a fait que négocier, c'est pas nous non plus. Ce à quoi les grévistes répondent, mais le gouvernement avait présenté les propositions de le voit pendant l'été, en juillet, il ne tenait qu'à lui de faire les annonces plus tôt. Et cette impression que tout est scénographié et que tout est fait pour que les conflits aillent jusqu'au bout en épuisant les Français est absolument insupportable. Pourquoi, par exemple, Édouard Philippe a-t-il attendu mercredi, jour du lancement du mouvement, pour faire ses annonces? Réponse évidente, il voulait voir si ça prenait. D'accord, mais
mais manifestement, c'est la même chose la semaine prochaine.
Et pareil la semaine prochaine. Là, il ne s'est rien passé aujourd'hui, il ne s'est rien passé hier. On attend tranquillement mardi pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Et ça, c'est intolérable.
François Annenwein, rédacteur en chef, éditorialiste à La Croix, je me mélange les pinceaux. Est-ce que pour renverser la vapeur, sans mauvais jeu de mots toujours, il faut faire revenir la CFDT du côté du gouvernement?
Mais si on parle de la CFDT, elle est dans une position que je trouve très défendable intellectuellement. Elle ne voulait pas des mesures à pivot, etc. Elle a dit non au gouvernement, mais de la même manière, elle est capable de dire non aux surenchères de la CGT. Mmh. Et Laurent Berger met un soin jaloux à garder une forme d'équidistance dans ce débat. Et je pense que on peut dire c'est du centrisme. Mais sur le plan tactique, la position centrale est toujours une position avantageuse.
Il fait du en même temps lui aussi, peut-être plus qu'Emmanuel Macron, Laurent Berger, il fait du en même temps aussi.
Non, mais à mon avis, il a quand même quelques convictions. Et ces convictions, la réforme est nécessaire, mais ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, la question de l'âge pivot, on l'évoquait tout à l'heure, on est dans une logique de surenchère. On l'a dit tous avec nos mots chacun, on est dans une logique de surenchère. Mais il faut pas perdre de vue que le gouvernement, en choisissant d'introduire la question économique au cœur d'une réforme systémique, commençait à obérer ses chances de réussir sa réforme systémique. Qui trop embrasse mal étreint. Et c'est ça l'erreur.
Et c'est vrai, Yasmina Jaffar.
Non, ce matin, en effet, pour rebondir sur ce que vous disiez très justement, Monsieur Berger a donné une interview au JDD en disant il y en a ras-le-bol de penser que ce système est parfait. Donc en effet, ça va directement à l'endroit de Monsieur Martinez. Et là, il y a un accord possible, en tout cas une entente possible avec Édouard Philippe, et peut-être que la volonté de vouloir diviser le front syndical qui se prépare mardi est en train d'éclore là maintenant, parce que en effet, il y a un en même temps du côté de Monsieur Berger qui fait entendre qu'il est plus réformiste qu'on peut l'imaginer. Il ne se radicalise pas en tout cas.
Et qui renvoie à la rentrée en disant que janvier ça peut se poursuivre si le gouvernement recule.
Bien sûr,
aussi,
bien sûr. C'est pour ça qu'une trêve finalement est possible. Ce qui serait magique, ce serait que Martinez dise aujourd'hui ok, on fait une trêve, parce que de toute façon ça fonctionne tellement pas. Je suis convaincue, c'est pour ça que je le dis avec tellement d'ironie. Parce que c'est tellement crispant cette affaire. Et en fait, qu'en janvier pas. L'affaire sera la même.
La réforme est venue au moment de Noël parce qu'il y avait un calcul tactique aussi.
Bien sûr.
Qu'il n'y aurait pas d'épreuve de force au moment de Noël.
Exactement.
Et les syndicalistes font le calcul inverse. Leur grève a un impact parce qu'on est encore plus fort, parce qu'on est au moment de Noël.
Tout à fait.
Donc, tout le monde est responsable en cet affrontement.
Oui. François Baudonnet.
Vous disiez tout à l'heure que les Français, étonnamment, soutenaient le mouvement.
Entend parler d'embarras, de la difficulté, oui, de la galère dans les transports.
Passait, regardez ce qui se passait pour les gilets jaunes, par exemple.
Ça
gênait énormément quand même avec les ronds-points occupés, les magasins qui marchaient pas, etc. Et les Français, pendant très très longtemps, ont soutenu le mouvement. Là, je crois que c'est la même chose qui est en train de se passer. Et surtout, je pense qu'il y a une colère qui est beaucoup plus profonde que uniquement le problème des retraites. Et c'est ça qui est en train de se jouer actuellement. Et c'est pour ça que même si effectivement les Français, alors d'ailleurs c'est souvent dans les transports en commun de proximité, c'est plutôt les Parisiens d'ailleurs qui sont gênés, un petit peu moins ailleurs. Il y a évidemment la SNCF qui pose problème pour beaucoup de gens et ceux qui veulent partir en effet pour Noël. Mais malgré tout, quelle que soit la gêne, vous posez la question, vous allez sur les quais, vous posez la question aux gens qui sont gênés, qui sont dans la foule, etc. Mais majoritairement, et c'est ce que disait sondage, ils soutiennent ce mouvement, parce que je crois qu'au-delà aussi des retraites, il y a une colère beaucoup plus profonde qui ne s'était pas complètement exprimée peut-être avec les Gilets jaunes et qui est en train de s'exprimer de cette façon-là aujourd'hui.
Le gouvernement accélère son calendrier sur le simulateur, vous savez, qui permet de savoir si on est concerné par la réforme. Le gouvernement va-t-il donc jouer les gagnants contre les perdants et puis surtout qui gagnera, qui perdra? Réponse dans quelques instants après la météo et le journal. Le trafic, Kelly Dufraîche, attention en région parisienne si vous circulez sur la 14.
Oui, parce qu'il y a un véhicule à contresens sur l'autoroute A14, donc à partir de la Défense vers Orgeval et à la jonction avec l'A13, l'Île-de-France, où la situation par ailleurs s'améliore tranquillement. On est à 100 km de bouchons désormais, bien moins que le pic de 225 km cumulés que l'on a connu il y a un peu plus d'une heure. La circulation est toujours un peu difficile autour de Lyon ce soir, notamment sur l'A42, ça bouchonne en allant vers Lyon pour ceux qui arrivent de l'Est et ça bouchonne à partir de Néron.
Merci Kevin Dufraîche.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Les prévisions météo France Info avec Jean-Michel Golinski.
Demain, la majeure partie du pays sera épargnée par la pluie, sauf du nord de la Loire à la frontière belge, où la journée sera généralement maussade, avec des pluies plus marquées au niveau des régions littorales. L'autre zone, où le temps sera pluvieux, mais sans excès, va se situer entre le Languedoc, le Roussillon et le Massif central. On notera un vent très marqué sur un large quart sud-est avec des rafales proches de 100 km à l'heure de secteur sud dans le quadrilatère côte méditerranéenne, Val-de-Saône, Massif central et le tiers est de la chaîne des Pyrénées. Sur le reste du pays, ce sont souvent des nuages d'altitude qui voileront le soleil. Les températures au-dessus des normes seront comprises entre 5 et 10 degrés la nuit et entre 11 et 19 degrés du nord au sud l'après-midi. Concernant la vigilance crue, maintien de certains cours d'eau du quart sud-ouest en orange.
...20h30 sur France Info, l'information avec Olivia Ferrandi, bonsoir.
Bonsoir, des trains et des métros qui rouleront encore en pointillé demain et des transporteurs routiers qui appellent à des blocages dans toutes les régions de France. Ces deux grèves n'ont pas la même finalité mais elles s'additionnent ce lundi, ce qui risque de complexifier un peu plus encore vos déplacements pour la reprise du travail après le week-end. Les quatre syndicats de transporteurs routiers réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, tandis que les cheminots défendent toujours leur régime spécifique de retraite et s'opposent ainsi à la réforme du gouvernement. Comptez pour demain un TGV sur 3, 40% des liaisons régionales. À Paris, 8 lignes de métro seront encore fermées ce lundi, mais le trafic sera partiellement assuré aux heures de pointe sur les lignes 4, 7, 8 et 9, uniquement le matin sur la ligne 11, uniquement l'après-midi sur la ligne 3. Ce soir, la CGT réclame à nouveau le retrait du projet de réforme et dans ces conditions, tout se passera bien, sous-entendu pour Noël, déclare le leader syndical Philippe Martinez. La République ne peut pas subir de chantage, lui répond Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Le risque d'inondation toujours préoccupé ce soir en Gironde, dans le Gers, le Lot-et-Garonne et dans les Landes. Quatre départements sont encore placés en alerte orange par Météo France. Les Landes, où un homme de 40 ans a été retrouvé mort aujourd'hui dans sa voiture à 25 km de Dax. Il était porté disparu depuis 48 heures. Justine Agar.
Ce sont ses proches qui avaient donné l'alerte dès vendredi soir. Eh bien, Vincent, cet homme de 40 ans, habitant de Vic-d'Oriba dans les Landes, a été retrouvé vers 15h à Onard, une commune voisine. Il est mort noyé dans son véhicule qui a été repêché par les gendarmes plongeurs dans un affluent de l'Adour. L'homme sortait d'une soirée dans la nuit de vendredi à samedi, d'après le parquet de Dax, vraisemblablement alcoolisé. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait retrouvé sur le bas-côté d'une route départementale, pris par les eaux. Les gendarmes étaient sur le pont depuis ce matin pour retrouver cet homme. Des moyens très importants ont été déployés avec les renforts d'un hélicoptère, des gendarmes plongeurs de la brigade nautique d'Arcachon, mais aussi des pompiers.
Plus de 300 habitants de Bayonne ont marché pour la paix et pour envoyer un message de fraternité aujourd'hui, un mois et demi après l'attaque contre la mosquée de la ville. Un rassemblement laïque et républicain. La communauté internationale rate une occasion importante d'être à la hauteur de la crise climatique, déplore ce soir le secrétaire général de l'ONU, alors que la COP25, la conférence sur le climat, s'est achevée sur un échec. Aucun engagement convaincant ni ambitieux pour adapter les modèles économiques au réchauffement climatique. Au rythme actuel, le réchauffement pourrait atteindre 4 à 5 degrés d'ici la fin de ce siècle. Mario Sandoval quitte la France ce soir. L'ancien policier est estradé vers l'Argentine, son pays d'origine, où il doit être jugé pour son implication présumée dans la disparition d'un étudiant en 1976 pendant la dictature. Mario Sandoval vivait en France depuis 1985. Un mot de sport, la Coupe d'Europe de rugby. Clermont domine largement les Anglais de Bath sur le score de 52 à 26 et se rapproche un peu plus encore d'une qualification pour les quarts de finale. 20h33, on retrouve Naïla Latrousse à la table des informés.
20h, 21h, les informés, Naïla Latrousse.
Avec toujours Judith Weintraub, journaliste au Figaro Magazine, François Baudonnet, journaliste à France Télé et chroniqueur dans l'émission Nous les Européens, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de La Ruche Média, et François Arnenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. La question que tout le monde se pose, suis-je concerné par la réforme des retraites? Un premier élément de réponse sera apporté dès mercredi avec un prototype de simulateur mis en ligne par Matignon. Julien de Normandie, ministre du Logement, vantait cette idée sur notre antenne ce matin.
Ce simulateur, l'objectif, c'est qu'il puisse être disponible le plus vite possible début 2020. L'objectif, c'est, en attendant ce simulateur, de donner à chacun ce qu'on appelle des cas types. On puisse s'identifier à ces cas types, c'est-à-dire je suis enseignant, j'ai 3 enfants, j'ai tel âge, en quoi la réforme m'apporter des éléments nouveaux. Et ça, ces cas types, on les aura dans les tout prochains jours. Le Premier ministre a demandé de les avoir avant le 18 décembre.
Yasmina Jaffar, Julien de Normandie, il parle de début 2020, Matignon oui. De mercredi, parce qu'en fait c'est pas le même simulateur, c'est ça, c'est un prototype qui est mis en ligne dès mercredi.
Oui, voilà, mais en même temps il y a quelques jours j'ai quand même entendu que ça serait compliqué à mettre en place. Donc quand j'entends Julien de Normandie complètement de bonne foi dire que
c'est l'élément d'aujourd'hui la bonne foi,
oui c'est ça,
tous de bonne foi,
c'est ça, que ça va fonctionner, ça me fait un peu peur parce que vu l'état actuel de la situation, l'ambiance générale, il faut surtout pas que ça bug. On se rappelait du processus mis en place par Monsieur Darmanin à l'époque du prélèvement à la source. Ça a fonctionné, c'est très bien, mais il y a eu beaucoup de doutes sur cette technicité. Là, c'est mis tellement aujourd'hui pour demain ou même pour hier que je ne sais pas à quel point ça a fonctionné. Et on a tous envie de savoir évidemment quelle sera notre retraite si on est né après 75. Hein. Il y a bien cette idée-là.
Oui,
aussi.
Et même après 60, puisque l'âge pivot.
Oui.
S'appliquer pour la génération née à partir de 1960, chose qu'on n'avait pas forcément comprise lors des premières annonces d'Edouard Philippe.
Et il y avait urgence à mettre en ligne ce simulateur. Mais pourquoi dès mercredi, Judith Weintraub?
Moi, je comprends pas très très bien le changement de pied. On nous a expliqué que c'était beaucoup trop compliqué parce qu'on n'avait pas toutes les données, notamment les transitions et les compensations. Je pense aux enseignants auxquels Jean-Michel Blanquer a dit qu'ils allaient avoir une revalorisation qui s'étendrait d'ailleurs jusqu'en 2037. Donc ça rend le calcul un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le simulateur ou le comparateur, je ne sais pas quel est son nom officiel, des données fractionnées avant correction des inconvénients, une correction promise par le gouvernement.
C'est une usine à gaz.
Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, là.
François Arnenwein.
À mon avis, ça ressemble presque à un gag à mes yeux. C'est-à-dire que...
Carrément un gag.
Bah oui, une forme de gag, puisque ça vient d'être dit. Si on n'a pas toutes les données, comment est-ce qu'on veut simuler si on ne sait pas de combien seront augmentés les enseignants? Comment est-ce qu'un enseignant saura ce qu'il gagne et ce qu'il perd? Et de toute façon, là encore, ma grand-mère était de bon conseil. Si l'objectif est de faire des économies, je ne vois pas comment les gens, à terme, pourraient mieux s'y retrouver. Donc tout ça, c'est le gadget supplémentaire qui vient appuyer une démonstration, mais qui fasse de la politique au gouvernement. C'est-à-dire qui regarde est-ce que la mesure est équitable, est-ce que le projet est défendable tel qu'il est là, et qu'ils ajustent leur discours aux questions que leur envoient les Français autour de la réforme des retraites. Et c'est pas un simulateur qui viendra corriger le tir.
Et admettons même que tous les paramètres qui puissent être rentrés dans le simulateur, là je crois que de toute façon ça arrive trop tard, parce qu'on n'est pas dans du rationnel. En fait, le gouvernement veut donner une réponse rationnelle. On n'est absolument pas, évidemment, dans le rationnel. On est totalement dans l'émotionnel. Et donc, ce simulateur a peu de chances de calmer ceux qui sont en colère aujourd'hui.
Et même quand on prend plus simples, les plus a priori carrés, ceux des gens des salariés du privé, le simulateur donc va faire le calcul de la retraite sur l'ensemble de la carrière au lieu de le faire sur les 25 meilleures années, ce qui est une proposition du projet. Donc, forcément, ils vont voir que le montant est moins élevé.
Mais justement, ça risque pas de braquer ceux qu'on appelle les perdants de la réforme,
voilà.
Julien Trouble.
Voilà, et qui sont quand même assez nombreux. Ça risque de les braquer, d'autant plus que le postulat, c'est que c'était pas une réforme comptable. C'est ça le problème, c'est que d'abord que l'exécutif se mette d'accord avec lui-même. Oui. Est-ce qu'une fois pour toutes, c'est une réforme qui doit être mise dans un système à l'équilibre, qui doit être déclenché dans un système à l'équilibre, comme le dit beaucoup Gérard, comme le dit beaucoup Édouard Philippe, mais comme l'a dit un peu aussi Emmanuel Macron, où est-ce que la promesse de Macron candidat sera respectée et qu'on ne s'occupera pas de l'aspect financier, comptable, budgétaire des choses.
Mais ça, que ce soit une réforme historique.
On n'en sait rien.
Historique.
Si vous disiez le système menace de s'effondrer à plus ou moins lointaine échéance, donc évidemment, il sera moins avantageux, les gens comprennent après que vous décliniez la suite logique des événements. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune chance que les gens ne soient pas douloureusement surpris.
Mais sur le fond, les deux aspects de la question sont importants. Est-ce qu'il faut plus de justice sociale dans la question des retraites ? Est-ce que la question de l'équilibre est une question importante ? Tout à fait. Mais faire tout en même temps, c'est une grave erreur politique. Je pense que l'inexpérience de ces nouveaux venus dans le jeu politique prouve au moins une chose. Il y a un art de la manœuvre en politique, et je pense pas qu'il se soit illustré particulièrement bien dans l'exercice concernant les retraites. Voilà.
Vous voulez dire que le discours de vérité, ça doit être de dire, puisque Édouard Philippe dit « je tiens un discours de vérité », il y aura des perdants à cette réforme.
Oui, et de dire qu'on a besoin d'être dans l'économie, de remettre à l'équilibre, et c'est l'ADN propre d'Édouard Philippe, y compris de M. Darmanin. Même M. Le Maire est en train d'essayer de changer d'avis en ce moment, alors que Emmanuel Macron a envie de rentrer dans l'histoire et de plutôt faire quelque chose d'assez juste. Mais il faut le dire, en fait, faire deux réformes en une, mais dites-le simplement.
Et le Premier ministre qui, dans un entretien au Parisien, précise que tous les simulateurs qui circulent aujourd'hui sur Internet sont faux. Il parle notamment de ceux qui ont été élaborés par les syndicats. On verra mercredi, du coup, à la mise en ligne, s'il y a vraiment un écart énorme entre ceux du gouvernement et ceux des syndicats.
La
guerre des simulateurs après la bataille de l'opinion. 20h40 sur France Info. Guillaume Fariol nous a rejoint, le rappel de l'info.
Des trains ou pas de trains à Noël? Eh bien, pour le patron de la CGT, la réponse est claire. Si le gouvernement retire son projet de réforme des retraites, tout se passera bien, dit Philippe Martinez. Réponse du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. La République ne peut pas subir de chantage. Le dialogue donc entre syndicats et gouvernement ne s'arrange pas et la grève se poursuit. En Ile-de-France, un quart des Transiliens en circulation demain, des RER A et B uniquement aux heures de pointe, 8 lignes de métro fermées à Paris. La Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Gers, toujours en vigilance orange, inondation. Les intempéries des derniers jours dans le sud-ouest ont fait 3 morts, le bilan s'alourdit. Ce soir, le corps de l'homme porté disparu dans les Landes a été retrouvé. 5 militants d'extrême droite en garde à vue au Mans après des violences hier dans le centre-ville. Des terrasses de bars saccagées par une quarantaine d'individus masqués en marge d'un rassemblement royaliste. Le secrétaire général de l'ONU se dit déçu et regrette une occasion ratée. Adoption d'un accord à minima sur le climat à l'issue de la COP25 à Madrid. Aucune règle fixée sur les marchés carbone par exemple. Et puis le français Alexis Pinturo remporte le slalom de Val d'Isère, l'une des épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin. Pinturo décroche la tête du classement général.
France Info. et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Le chiffre du jour, 660, c'est le nombre de médecins hospitaliers prêts à rendre leur blouse, des professeurs, des chefs de service qui menacent de démissionner si le ministère de la Santé n'ouvre pas de réelles négociations budgétaires. Réponse d'Agnès Buzyn tout à l'heure.
Je leur dis que je suis des leurs, parce qu'en réalité j'ai fait le même métier qu'eux. Je sais la difficulté de leur métier et ce que je suis en train de faire va sauver l'hôpital. C'est ça que je vais leur dire, on va leur donner de l'air, on va leur donner des moyens, on va leur permettre de recruter des gens et c'est de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de personnel pour faire fonctionner les hôpitaux et toutes les mesures que j'annonce, qui sont pour l'instant des volumes financiers, en réalité c'est quoi ? Ce n'est pas de l'argent en banque, c'est de l'argent pour payer du personnel, pour ouvrir des lits, c'est exactement ce qu'ils demandent.
François Baudonnet, elle dit on donne des moyens, je donne des moyens à Agnès Buzyn. Est-ce que c'est elle qui tient les cordons de la bourse ?
En tout cas, je ne sais pas si le gouvernement donne véritablement des moyens, mais ceux qui travaillent dans les hôpitaux n'ont pas le sentiment que c'est le cas. Il y a eu un certain nombre de plans, dont certains récemment, et ils ont le sentiment que les choses ne s'améliorent pas. Et il me semble comprendre dans leurs revendications, là vous parliez des 600 signatures, que en fait ils ont le sentiment d'être un peu invisibles. En fait, quand on va dans un hôpital, ça m'est arrivé pour des raisons personnelles ou des proches, on se rend bien compte qu'il y a un énorme problème de moyens, qu'effectivement il manque de moyens, il manque de personnel. Là, ils sont pas dans la rue. Enfin, ils vont y aller, mais ils profitent un petit peu de ce qui est en train de se passer. On parlait de toutes ces colères qui montent en France. Peut-être que là, ils se disent c'est maintenant qu'il faut qu'on y aille parce que ce qu'on a obtenu précédemment, ce n'est pas suffisant. Ils estiment que l'hôpital va très mal. Et encore une fois, il suffit de se rendre dans un hôpital public pour se rendre compte que c'est effectivement très très souvent le cas. Et là, ils se disent c'est maintenant qu'on doit obtenir ce qu'on demande depuis maintenant des mois, voire des années.
Ils disent notamment dans la tribune que la politique de santé se décide à Bercy. C'est vrai, Judith Weintraub, c'est Bercy aujourd'hui qui décide de si on peut donner un peu plus d'argent aux soignants ou pas. Il y a déjà beaucoup d'argent qui a été mis sur la table.
Il y a beaucoup d'argent, je crois qu'on en était au troisième plan dans des échéances extrêmement rapprochées. Agnès Buzyn a quand même parlé de sommes non dépensées de la sécurité sociale qui seraient réallouées et non pas d'argent supplémentaire dans la plupart des cas, ce qui fait que c'est assez difficile de comprendre s'il y a vraiment de l'argent en plus ou pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à comprendre, mais il est évident que cette tribune a une dimension opportuniste. C'est le moment ou jamais d'accentuer la pression, puisque le gouvernement avait essayé d'étaler le feu.
C'est une menace en l'air, les 660 démissions ?
J'espère pour eux, oui, mais qu'ils n'en arriveront pas là. Mais enfin, c'est une menace compliquée. Puis il y a quand même pas mal de médecins qui sont absolument dégoûté, étant salarié par le public, de voir des médecins privés être payés beaucoup mieux qu'eux pour pallier l'absence de personnel médical. Il y a un truc qui va pas, mais c'est qui ne se réduit pas d'ailleurs à des questions budgétaires. Il y a beaucoup de questions d'organisation. Moi, j'entendais des aides-soignants expliquer qu'ils passaient 50% de leur temps à entrer des données. Mais c'est pas possible, ça, de transformer des aides-soignants en agents administratifs.
Une vraie crise de la vocation, c'est très
dur. Oui, l'exercice aussi, une administration décrite à peu près unanimement comme très dure, injoignable, qui vous déplace, qui vous change d'horaire, qui vous change de service sans vous demander votre avis. Enfin, c'est un ensemble de problèmes enquistés et depuis longtemps.
François Hollenwein, ce n'est pas qu'une question de moyens, comme le dit
Non, je ne pense pas que ça soit une question de moyens. Je pense que quand les médecins s'expriment là, ils essayent de défendre une certaine qualité de service qui est évidemment coûteuse. L'hôpital public en France fonctionne globalement bien, même si il traverse la crise dont on est en train de parler. Mais j'ai connu des grands libéraux qui étaient très critiques pour le système administré français en matière de santé, qui, une fois qu'un pépin leur était arrivé, ont écrit des livres pour chanter les louanges du système...
Je vois à qui vous faites référence.
Pour chanter les louanges de l'hôpital public. Donc, moi, je comprends que ces patrons de services, etc., aient envie de défendre des standards de qualité. Or, la logique comptable qu'on leur a imposée dans l'administration de leurs services est une logique qui a contribué à détruire le fonctionnement correct de l'hôpital tel qu'il imaginait eux. Et je comprends qu'on puisse se cabrer contre une logique budgétaire appliquée de manière assez autoritaire à l'hôpital. Enfin, l'enjeu humain, l'enjeu sociétal, vaut bien quand même qu'on ne soit pas comptable sur toutes les décimales.
Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a eu cette photo, vous vous rappelez, de cette semaine ou la semaine dernière, de cet enfant en Angleterre de 4 ans allongé par terre avec une perf dans le bras, qui montrait absolument la déchéance totale de l'hôpital anglais, en tout cas à Londres. Et ça a mis très très mal à l'aise les politiques là-bas. Il ne faut pas du tout que ça nous arrive ici. Donc c'est vrai que la logique comptable est insupportable.
Il y avait eu il y a quelques semaines cette même accusation de volonté de vouloir privatiser l'hôpital.
Oui, totalement. Il se passe la même chose à l'université. C'est exactement la même chose. Depuis les années 80, on se rend bien compte que l'école publique est donnée plutôt à des organismes privés. C'est la même chose pour l'hôpital.
Oui, et qu'il faut mieux et pour moins cher.
Oui, voilà, en plus.
Par exemple, les urgences privées, qui, je le rappelle, sont soumises à des tarifs qu'elles ne peuvent pas dépasser, en tout cas à des plafonds, fonctionnent très bien dans la plupart des cas et pour moins cher que l'hôpital.
C'est-à-dire que pas une mauvaise chose, si je comprends
bien. Et même que d'avoir réformé,
par exemple... Non, ça ne sera pas une mauvaise chose. L'État à l'hôpital est mauvais gestionnaire et gestionnaire inhumain. Donc il n'a pas de leçon à donner.
Et d'avoir réformé le numerus clausus, par exemple, pour essayer d'appâter, d'amener un peu plus de candidats à l'école de médecine, aux études de médecine, ça n'aidera pas plus que ça, parce que tout le décorum autour ne donne pas du tout envie de faire ce métier. S'il y a des déserts médicaux partout en France, c'est aussi parce que c'est très très compliqué, très difficile d'exercer son métier et qu'on est surchargé de patients et qu'il ne faut pas faire les choses de façon complètement arbitraire. Et il y a aussi la médecine sur Internet. Maintenant, vous savez, quand vous pouvez avoir des consultations de médecins digitaux, enfin virtuels, c'est juste un monde entier qui s'écroule. Donc Agnès Buzyn dit avec fermeté qu'elle va créer de l'emploi, mais en même temps, sans moyens, je ne sais pas comment faire. Il y a juste de la parole, là.
François Boudonnet.
Et c'est une crise qui, je reviens un peu là-dessus, mais qui augmente encore la colère des Français, parce qu'ils voient bien que les urgences donc sont en crise, on le dit, mais on le voit. Il y a des maternités qui ferment dans des petites villes, etc. Et donc, les Français ont le sentiment de...
Et la règle économique qui n'est pas à jeter non plus. C'est pas parce qu'on s'occupe de santé qu'il faut pas du tout avoir de préoccupations comptables. On n'en a pas les moyens.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la France n'en a pas les moyens.
Toute petite maternité n'a pas vocation à rester ouverte, pour des questions de santé.
Chère Judith, dans une économie humaine, la question de la santé devient une question assez centrale. Moi, je ne suis pas favorable à tous les combats menés pour que soient maintenues des urgences de nuit ou des maternités là où il n'y a pas lieu qu'il y en ait à cause de la demande. Mais il faut garantir partout sur le territoire une offre de soins de qualité. Il faut que les pouvoirs publics
s'organisent
pour que cette offre soit assurée, que dans la diagonale du vide, comme on dit communément, on ait droit aussi à être soigné, qu'on ait des urgences accessibles. Et si c'est pas l'hôpital qui s'en occupe, il faudra reposer la question des gardes assurées par les médecins libéraux. Et c'est pas un scandale que des médecins rémunérés par la sécurité sociale, en grande partie, assurent eux aussi des gardes de nuit, par exemple.
Et cette question de la santé rejoint d'ailleurs en partie celle aussi de la retraite. Peut-être que le contexte participe à accentuer la crise, puisque nombre de syndicats plaident pour le rétablissement de facteurs de pénibilité dans le calcul de la retraite, notamment des aides soignants. Mardi, nouvelle manifestation des personnels hospitaliers, cortège différent de celui des retraites, mais qui aura vocation à converger. On en débattra à nouveau dans Les Informés, 20h50, le rappel de l'information avec Guillaume Fariol.
Le bilan des intempéries dans le sud-ouest passe à 3 morts. Le corps de l'homme disparu dans les Landes a été retrouvé dans sa voiture tombée dans un cours d'eau en crue. 4 départements sont toujours en vigilance orange inondation. Enedis poursuit son travail pour rétablir le courant. 7000 foyers restent sans électricité ce soir en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 4 fédérations de la CGT, dont celle des cheminots, menacent de durcir la grève contre la réforme des retraites si le gouvernement ne retire pas le texte d'ici une semaine. La grève qui se poursuit, encore de grosses perturbations dans les transports demain. Du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise, l'opposition réclame la démission du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, fragilisé après ses omissions dans sa déclaration d'intérêt. Il est totalement disqualifié, dit Marine Le Pen. C'est un menteur pour le député insoumis Alexis Corbière. Le flop de la COP25, un accord à minima adopté à Madrid à l'issue du sommet sur le climat. Les négociations ont été minées par les lobbies des industries et des énergies sales, dénonce Greenpeace. Coup d'envoi dans 10 minutes, Saint-Etienne reçoit le PSG en clôture de la 18e journée de Ligue 1 de football. Avant cela, la victoire de Rennes à Lyon, 1-0. Strasbourg s'impose contre Bordeaux, 1-0 là aussi.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
À l'instant, Guillaume Fariol évoquait la France insoumise. Eh bien, ça tombe bien, nouvelle crise entre son leader Jean-Luc Mélenchon et le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est bien cela, je dis Van Trobin, j'ai bien. Nouvelle crise parce que, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a brocardé les oukases arrogants des communautaristes du CRIF en évoquant l'élection en Grande-Bretagne, en faisant un parallèle avec la défaite des travaillistes et de Jérémy Corbyn. On vous explique dans quelques instants. En tout cas, ça a agacé le président du CRIF, Francis Khalifa, et nombre de ministres, dont celui de l'éducation, Jean-Michel Blanquer.
Vous savez, quand j'ai lu ça, je l'ai lu ce matin d'ailleurs, je n'ai pas lu avant. Quand j'ai vu ça, j'en ai pas cru mes yeux. C'est quelque chose d'ignoble, c'est inacceptable. Je sais très bien ce qu'il fait quand il fait ça.
François Baudonnet, mais pas du tout. François Arnonwein, je m'en mêle dans les François. Hein, ça, c'est, excusez-nous, on est un petit peu foufou avant Noël. François Arnonwein, c'était une erreur, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il doit s'excuser.
Oui,
il y a des appels
à
ce qu'il s'excuse ce soir.
Une erreur qui relève.
Ignoble, dit Jean-Michel Blanquer.
Non, mais. L'outrance peut être dans différentes formes d'expression. C'est incontestablement une erreur, c'est déplacé, c'est un niveau de discours qui n'est plus adapté. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme de l'ancien temps. C'est comme ça qu'on parlait, c'est comme ça qu'on débattait, il y a 20 ou 30 ans, mais c'est fini, ah, ça.
Je pensais plutôt aux années 30 ou 40.
Oui. Non, bah,
plutôt autour de Gringoire, par exemple.
Enfin, en tous les cas, c'est une manière très datée de s'inscrire dans le débat public et d'évoquer des sujets très divers. Et je pense que c'est une très très grave erreur de proposer encore d'avancer dans le débat de cette manière-là. Quant aux réactions outrées, je pense qu'il faut constater l'erreur, mais pas non plus en faire un sujet pendant des semaines.
Je sens que Judith Weintraub est plus indignée que vous. Hein. Vous évoquez les années 30.
C'est le langage, c'est pas un problème entre Jean-Luc Mélenchon et le CRIF. On n'est pas du tout à ce niveau-là. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Quand Jean-Luc Mélenchon reproche à Corbyn de s'excuser, d'abord, il nie l'antisémitisme de Corbyn qui est extrêmement documenté. Je vous citerai par exemple son voyage à Tunis en 2014 où il va déposer une gerbe sur la tombe de membres de Septembre Noir, c'est-à-dire des auteurs de l'attentat de Munich de 1972 qui ont tué 11 athlètes israéliens. Il y a des tas d'exemples, il y a des plaintes qui ont été déposées par milliers contre des actes antisémites, des déclarations antisémites au sein du Parti travailliste anglais. Donc, et le Parti travailliste qui est gangréné, et Corbyn qui lui-même verse dans l'antisémitisme le plus crasse régulièrement, qui a d'ailleurs reconnu qu'il y avait un problème, mais quand même qui n'est pas allé jusqu'à s'appliquer à lui-même l'examen de conscience, c'est ça la vraie question. Donc tout ça, Jean-Luc Mélenchon le nie, et le langage qu'il utilise en parlant de génuflexion devant le CRIF, qu'on aime ou pas le CRIF d'ailleurs, peu importe, il dit que la classe politique française, il reprend les thèses complotistes tout à fait classiques, quoi, les juifs qui veulent dominer le monde et devant lesquels on s'aplatit, c'est absolument abject.
Il évoque les lobbies notamment. Quand il dit ça, Yasmina Jaffa, il dérape ou il provoque délibérément Jean-Luc Mélenchon?
Moi, je ne sais plus où on en est avec Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai l'impression que l'intellectuel érudit confronte le rageux et le frustré de ne pas avoir gagné il y a 2 ans et demi.
On sait effectivement, vous dites, ce n'est pas qu'une relation au CRIF, Judith Weintraub, mais on sait qu'avec le CRIF, régulièrement, dès qu'il y a l'occasion de s'opposer, Jean-Luc Mélenchon.
Dès qu'il y a l'occasion d'exister ou de, je ne sais plus, c'est de la provocation. Jean-Michel Blanquer disait, justement, on a coupé à ce moment-là, il sait ce qu'il fait quand il fait ça. Alors j'aimerais avoir la suite de l'explication, parce que fait-il ? Provoquer, oui, en effet, comme quand son corps est sacré. Je ne sais plus du tout à qui nous avons affaire là, mais j'ai du mal à imaginer que l'érudit qu'il est tombe dans des
on
choses aussi
basses. On peut faire l'hypothèse un peu simpliste que, pour qu'on parle de lui, il
mais
tente d'exister comme ça.
Ouais, mais c'est Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît un peu plus, c'est trop simple.
Mais on lui prête des qualités qu'il n'a peut-être pas.
Voilà. Et ben alors voilà,
c'est peut-être ça, oui.
Et là, un mythe tombe.
François Baudonnet, peut-être pour vous, lorsque Jean-Luc Mélenchon parle de cette façon, ce n'est vraiment que la position de Jean-Luc Mélenchon ou les Insoumis, que vous avez connus notamment au Parlement européen, sont sur les mêmes hypothèses?
Non, honnêtement, moi, là-dessus, je suis très mal à l'aise. Je ne sais pas trop quel est l'objectif derrière. On a le sentiment, effectivement, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc, mais qu'il y a eu des moments où il a un très mauvais score aux européennes. Il y a eu cette affaire de la perquisition, etc., avec le procès qui a suivi. Et effectivement, j'ai un peu de mal à ne pas croire qu'il cherche un peu à faire parler de lui par tous les moyens. Après, voilà.
Oui, ça, c'est la stratégie, mais il y a aussi ce qu'il a dit.
Ce qu'il a dit.
C'est la période de Noël, on va faire preuve de mansuétude et se dire que Jean-Luc Mélenchon va peut-être expliquer quel était le sens de ses propos. Peut-être que ça viendra dans les jours à venir. François Ernenwein, rédacteur en chef, éditorialiste à La Croix, votre une de demain.
Elle est consacrée à la difficulté qu'ont les diocèses qui œuvrent pour l'accueil des migrants, c'est-à-dire... Il y a une forte pression migratoire en France. Les églises sont en général très actives pour accueillir les réfugiés, les migrants, etc. Mais elles ne sont pas forcément outillées ou équipées pour faire ce travail-là. Et ça prouve au moins une chose, c'est que cette solidarité, cet accueil, c'est pas seulement l'œuvre des églises ou des croyants, c'est la question posée à l'ensemble des Français.
C'est-à-dire demain, dans les kiosques. Merci à vous, à Judith Weintraub, journaliste au Figaro Magazine, à François Baudonnet, journaliste à France Télé et chroniqueur dans l'émission Nous les Européens, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com. Merci à vous et bonne soirée sur France Info.
Merci, au revoir.